Chaque année, c'est le même scénario. Les vacances commencent, le quotidien s'arrête et certains choisissent d'oublier leurs engagements. Cet été, n'abandonnez pas Radio Courtoisie. Alors que la gauche veut nous bâillonner et détruire notre liberté d'expression qui vous est chère, votre radio reste fidèlement à vos côtés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'été est la période la plus difficile de l'année. Nous avons besoin de 200 000 euros pour continuer à émettre et vous préparer une rentrée percutante. Un euro, rien qu'un euro par auditeur. Cet été encore, aidez Radio Courtoisie à donner de la voix. Soyez partie prenante de cette résistance. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Radio Courtoisie, libre, indépendante et fidèle, grâce à vous.
Oui, grâce à vous, chers auditeurs. N'oubliez pas de soutenir votre radio. Nous passons maintenant, après cet entretien avec Virginie Joron, députée RN donc au Parlement européen, à notre rendez-vous de la réinformation, et on attaque tout de suite avec le dernier 14 juillet d'Emmanuel Macron. Hourra.
En tant que président.
En tant que président, oui. Après, on s'en fiche. Hein. S'il veut venir comme nous,
enfin, moi, il est capable de se représenter en 2032.
Hein. Alors, donc, comme je le disais pour la dernière fois, nous allons le voir avec sa mine réjouie. Et Martial et ses lunettes Ray-Ban en train de poser au chef de guerre. Et depuis 3 ans, donc, il nous assure qu'il organise le réarmement de nos armées pour faire face aux nouveaux enjeux et aux nouvelles menaces. Alors, qu'en est-il vraiment? Est-ce que quelqu'un a un point de vue sur cette chute de l'armée française?
Alors, j'ai un point de vue que je tire directement de l'excellent dossier
de Mériadec Raffray.
De Mériadec Raffray dans l'excellent partenaire Valeurs qui est Valeurs Actuelles, sur le réarmement et notamment le fait que, comme le dit un général, on va se retrouver avec un niveau qui nous permettra d'atteindre enfin l'année 2013.
Voilà.
Donc, Emmanuel Macron fait en sorte de nous faire un bond dans le temps et que toutes les promesses successives faites par tous les présidents de la République et tous ceux qui, au ministère de l'Intérieur, s'occupent de la loi de programmation militaire, la LPM, vont réussir, alors que jamais le monde n'a été si en danger, à nous mettre au niveau promis en 2013 et systématiquement non atteint depuis, en partie grâce à Emmanuel Macron quand il était à Bercy, en partie grâce à Emmanuel Macron quand il était président de la République, puisque ce sont toujours dans les budgets militaires qu'on a taillés, et qu'on a taillés de 20 façons différentes, mais toutes évidemment catastrophiques pour l'armée.
Alors là, il y a un point important. En fait, on pourrait faire remonter ça aux Mérovingiens, si on veut parler, ou aux saignées de la Grande Armée de Napoléon, ou à la Grande Guerre. Mais en réalité, je pense que plus modestement, l'effondrement réel de l'armée française... ça pourrait vraiment être, si on parle vraiment récemment, hein, c'est le livre blanc de l'armée française en 2012, où en fait on a acté l'idée que le budget militaire dans un pays qui ne devait plus jamais être en guerre, puisque nous étions sous le bouclier américain, et que de toute façon les gens faisaient la paix sur Terre, et que tout le monde était de bonne volonté, il faut se rappeler hein, quand même, ça remonte à une dizaine d'années, où on nous a expliqué que l'Europe n'était plus en proie à des guerres, et qu'il était absurde d'avoir une armée qui ne servait plus à rien, sinon à faire des petites missions en Afrique, et qu'on allait donc avoir une espèce d'échantillon de toutes les armes, histoire de dire qu'on était capable de tout faire, mais on est arrivé avec des soldats qui faisaient pan-pan pour leurs tirs, leurs exercices d'armes à feu, des soldats qui allaient voler, ça, malheureusement je l'ai vu par des témoignages d'amis qui sont dans l'armée, qui allaient voler du combustible, enfin du fuel au régiment voisin, s'ils voulaient faire leur propre
manœuvre.
Des frégates françaises qui partaient en mission sans munitions.
Sans munitions, bah oui. Fortes uniquement de leurs petits
muscles. Non, mais là aussi, c'est authentique et ça a été avéré.
Oui.
Hein, c'est...
Oui. Ils avaient peut-être des lunettes Ray-Ban sur les yeux. Et donc, c'est alors qu'on a vraiment fait... C'est incroyable parce que c'est stratégique. Le budget de l'armée est passé en dessous des 2% et on a redéployé l'argent vers des budgets qui avaient déjà 7 ou 8% du budget, comme l'éducation nationale ou la culture. Il faut vraiment se dire qu'en 2012, on a voté des budgets qui dépouillaient l'armée de tout et qui laissaient nos soldats à l'os en redéployant pour faire des cours sur je ne sais quoi et valoriser des expos d'art contemporain. Voilà, donc je pense que là, c'est vraiment important de remonter à ça. Et maintenant, donc, 2013... C'est pas anodin ce que vous dites, Richard de Sèze. Ça n'est jamais anodin. Mais là, c'est encore moins anodin. L'idée qu'on soit au bilan de au niveau de 2013.
Enfin, qu'on vise.
Qu'on vise, oui, qu'on vise. C'est pas forcément un hasard étrange. Alors voilà, Charles-Henri Deslois.
Moi, je voulais dire qu'il y a depuis 60 ans, on nous berce d'illusions avec l'arme nucléaire, ce qui est très bien l'arme nucléaire, et heureusement que nous l'avons. Mais on a bercé les Français en disant « vous en faites pas, on a l'arme nucléaire ». Seulement, on n'utilise pas, Dieu merci,
on peut pas l'utiliser
une bombe
tous les
atomique
jours.
Pour défendre un bout de terrain à l'autre bout du monde ou défendre des alliés qui seraient en proie à une attaque ennemie. Donc, il est évident qu'on a gratté sur l'arme conventionnelle pour entretenir une armée, enfin une force nucléaire. Et encore, on a un peu déshabillé l'arme nucléaire, puisque moi, j'ai connu une époque où il y avait les Plutons là, sur le plateau dans le sud-est de la France, je ne me souviens plus comment on les appelait. Enfin bref, il y avait des missiles qui étaient pointés sur l'Est, à l'époque c'était l'armée rouge, hein. Il y avait la guerre froide. Entre parenthèses...
Qui est devenu un ami entre-temps. Hein.
Entre parenthèses, on nous a fait croire aussi... Oui, enfin, la Russie n'est...
Non, je plaisante.
Oui, oui charbon. Ah, mais venant de vous, je ne sais pas quoi m'en tenir. Oui, d'ailleurs, entre parenthèses, on nous a fait croire aussi que l'Europe protégeait la paix. Elle ne protège rien du tout, l'Europe.
Elle protège les droits de l'homme, monsieur.
Voilà, elle protège, si vous voulez. Oui, on confère le débat qu'on a eu à l'instant. Non, l'Europe n'a jamais protégé de la guerre. Ce qui a protégé de la guerre, ça a été la concurrence entre les États-Unis et l'URSS de l'époque. Qui allait tirer le premier, on savait que ça devenait une guerre mondiale et on était tous anéantis. Donc c'est ça, c'est la trouille de l'arme nucléaire qui a protégé la paix. Donc si tu veux la paix, prépare la guerre. Et on a tellement déshabillé l'armée française conventionnelle qu'on se rend compte aujourd'hui, même pour aller défendre vos amis ukrainiens, mon cher président, bah on n'a plus de quoi. Quoi.
Ah bah, alors, je dois dire que les amis ukrainiens, on aurait pu en parler tout à l'heure avec Virginie Joron, mais il est sidérant, et je ne sais plus avec qui on parlait, c'est peut-être dans une autre émission, mais on parlait des normes européennes qui étouffent nos entrepreneurs, bah, c'était avec Virginie Joron. Mais il faut quand même se dire que l'Ukraine, pays affaibli par une guerre, pays moins puissant que la France, pays faible, a réussi depuis 2022 à créer une industrie du drone et du missile en profondeur qui maintenant écrase à plate couture les productions européennes. Oui, c'est sidérant.
Elle s'est détachée du droit européen.
Alors, il y avait récemment une représentante d'une grande entreprise de drones, parce qu'ils ont réussi à produire un drone maintenant qui atteint les 250 ou 300 km/h. Faut imaginer ce que c'est, 300 km/h. C'est prodigieux ce qu'ils ont réussi à faire. Et elle expliquait aux Européens qui lui demandaient comment ils avaient réussi, parce qu'en fait, c'est pas possible, puisque ce sont des sous-développés ukrainiens.
Et les Allemands ont ricané encore il y a quelques semaines des ménagères ukrainiennes en train de monter les drones dans leur cuisine.
Oui. Eh bien, en fait, elle a expliqué qu'en Ukraine, il n'y avait pas toutes les normes européennes et que, en fait, à condition qu'on les laisse faire, qu'on les laisse travailler, vendre leurs produits et les faire en s'affranchissant de toutes les stupidités, eh bien, voilà
donc,
le résultat en quelques années.
Ils ont des cerveaux.
Alors, ils ont des cerveaux et ils ont
pas,
des libertés.
Et ils n'ont pas le principe pas de précaution que Chirac a voulu instituer dans la Constitution.
Effectivement, les drones, c'est fait pour tuer. Ouais. Et donc, c'est bien quand ça arrive.
C'est bien quand ça marche.
À faire.
Enfin, voilà. Donc, on a une armée croupion qui est une espèce de milice internationale.
Oui. Enfin, ça va mieux. Mais c'est vrai qu'on est à 100 lieues dans l'endroit où on devrait être. Surtout par rapport aux menaces qu'on nous promet et à ce réarmement dont Macron ne nous parle pas que depuis cette année.
Et surtout qu'on est supposé être quand même la 5e ou 7e puissance mondiale.
Je voudrais, monsieur le président Bouclet, permettre
monsieur le directeur général.
D'ajouter un élément à cette discussion. C'est les canons César, dont à juste titre tout le monde se félicite, que nous distribuons d'ailleurs généreusement aux Ukrainiens en les enlevant en partie aux unités françaises. Donc, ces canons servent à tirer des obus, ce qui n'aura échappé à personne. Et il y a une usine en France qui fabrique ces obus.
J'ai bien fait d'inviter un expert militaire.
Et cette usine est peut-être en train de faire faillite.
C'est horrible. Est-ce que vous pouvez en dire un mot parce que...
C'est une usine de Tarbes.
Ça, c'est incroyable.
En plus, c'est un pays que j'aime bien. Mais le groupe auquel elle appartient est un groupe dirigé par deux Français, réfugiés évidemment dans les eaux internationales et les paradis fiscaux. Ils ont racheté plusieurs usines d'armement et ils les gèrent non pas du tout en industriel soucieux de l'intérêt général, ni en industriel soucieux de l'innovation technologique ou soucieux d'une chaîne de fourniture solide, une chaîne logistique solide. Ils les gèrent en bons financiers français, expatriés, et donc on se retrouve avec une usine qui est au bord de la faillite, au bord de la cessation de paiement. C'est la seule usine française qui est capable de faire les obus des canons César, et une fois de plus, on apprend ça, et on apprend surtout que l'État français ne fait rien, sinon justement ce qu'il a déjà fait depuis 5, 10, 15 et 20 ans, faire en sorte de laisser tomber l'intégralité des PME d'armement françaises les unes après les autres.
Oui, alors ça, c'est quand même phénoménal. Et alors,
on soutient les gros groupes, Thales, Dassault, tant mieux, mais les petites entreprises, on les laisse crever.
Mais ce que vous disiez m'a fait penser, alors on passe un peu du micro au macro ou du macro au micro.
Au Macron ?
Non, enfin, un peu au Macron, mais en fait, là, on parle des gros obus pour les canons César, et dans un genre beaucoup plus éthéré, beaucoup plus délicat, malheureusement, c'est l'entreprise Darquet, qui est une entreprise du Nord-Pas-de-Calais, qui, elle, fabrique non pas des obus, mais de la dentelle de Calais. Et qui est en train de fermer aussi, qui a déposé le bilan. C'est la plus ancienne fabrique de dentelle de Calais, qui a été fondée en 1840, qui employait encore 45 salariés, c'est pas rien. Et elle explique qu'ils ont été la cible d'une concurrence chinoise extrêmement agressive, qui produit de la dentelle de médiocre qualité, et que, à part des paroles réconfortantes, malheureusement, ils n'ont pas pu compter
de Vatican
à aucun instant sur les... sur le gouvernement et les collectivités publiques.
C'est la faute de Vatican II.
Parce que l'Église traditionnelle... Je vous laisse avec l'expert en dentelle.
Oui. Mais oui, parce que les habits sacerdotaux traditionnels sont...
Apparemment, c'est plus la faute des Chinois, mais bon.
Non, mais oui, mais on aurait pris français. Non, pour en revenir aux entreprises françaises, la fabrique d'armes de Saint-Étienne, c'est lamentable. On a laissé choir. Pour avoir maintenant des fusils, je crois, italiens.
Alors, la manufacture d'armes de Saint-Étienne, effectivement, était une des plus puissantes.
Florissante, extraordinaire, un fleuron d'industrie d'armes français.
Qui doit remonter à quoi ? Peut-être même avant le 19e siècle. C'est vraiment...
Non, non, mais c'était extraordinaire. Moi, j'ai connu le FAMAS, qui était
un fusil... On sent là, toute la joie de Charles-Henri quand il parle du FAMAS. On dirait Mériadec Raffray quand il nous parle du chef d'état-major et des chars qui s'avancent.
Le MAT 45. Mériadec
Raffray, qui est un ami et que j'adore, FAMAS. Mais a toujours, quand il parle de ses opérations militaires, quand il vient à l'antenne de Radio Courtoisie, on dirait un grand enfant qui joue avec des tas de régiments.
Tous les hommes retrouvent leur instinct de petit garçon quand ils jouent à la guerre.
Ah pardon, je vous ai grossièrement coupé
tout ça
sur
pour
le
dire, non, mais d'abord, le FAMAS était un fusil de précision. Mm-hmm. À 200 mètres, vous pouviez mettre une balle dans le trou du cul d'une mouche. Vous aviez aussi...
C'est imagé.
Vous aviez une lunette de nuit incorporée. Mm-hmm. Vous pouviez tirer aussi bien en position pistolet-mitrailleur qu'au coup par coup. Enfin bref, moi j'ai des extases avec le FAMAS.
On le sent. Arthur de Vatrigan, est-ce que vous avez... Non, vous n'avez pas fait le service militaire puisque vous étiez trop jeune.
Oui. Ah bah non, j'allais mieux pas pour eux que je le fasse, à mon avis. École, justice, police, hôpital, armée,
dentelle.
En fait, on a à poil partout, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'argent. Et tout est prioritaire.
Mais
c'est
tout,
ça. Oui, tout est prioritaire. Donc, on fait quoi ? En fait, il n'y a plus d'argent.
C'est moi qui pose la question.
Je ne sais pas combien de 1000 milliards de dettes. Les charges de la dette ont endetté nos enfants, nos petits-enfants, les petits-enfants de nos petits-enfants. Et tout est prioritaire. Donc, malheureusement, on va devoir arbitrer. Vraiment, quoi. Et je ne sais pas si on se rend compte dans quel niveau de misère est la France. Et arbitrer, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir financer tout comme il faut. Soit on continue à faire semblant de tout financer, et donc
en saupoudrant,
ça veut dire qu'en fait tout va descendre encore, et il y aura plus de tarés dans les rues, moins de policiers pour faire des enquêtes, donc plus de victimes, moins de gens pour les soigner. Et de plus en plus d'illettrés et d'incultes, donc forcément de plus en plus de tarés aussi également. Et sans parler des menaces évidemment extérieures, donc soit on meurt lentement, mais lentement sur un temps court, soit on choisit. Et si on choisit, bah, ça veut dire on fait quoi en fait? On élimine quelle partie? On en met moins dans l'école, on met moins dans l'hôpital, on en met moins dans la justice. On va pouvoir faire des économies, hein, le CESE, les trucs à la con, si on règle un peu d'immigration, mais ça suffira quand même pas. Même en faisant toutes les économies qu'on peut, on pourra pas mettre tout à niveau. Donc on va forcément laisser des gens sur le bord de la
route. L'administration des fiscales. Alors, pour mieux, ouais, pour mieux capter l'impôt là-haut.
Ouais, ouais, mais sur bout d'un moment, il n'y a plus d'impôt. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Ils pourront chercher ce qu'ils voudront, ils ne pourront pas.
Les ministères qui prennent le plus de budget, c'est quand même encore, hein, l'éducation nationale,
oui,
et la culture. Et on peut quand même se demander...
C'est rien, budget. C'est
bah, apparemment, c'est quand même un gros budget.
C'est même pas 6 milliards.
L'éducation nationale, c'est beaucoup.
Ah non, l'éducation nationale, c'est énorme, mais en plus, c'est quand même la seule boîte française où ils connaissent pas les effectifs à 100 000 personnes près. À 100 000 personnes près, ils savent pas. Et que vous avez, je sais pas combien de centaines de milliers de personnes qui ne... qui n'ont pas d'affectation officielle. Alors, c'est-à-dire qu'il y a entre ceux qui sont dans la vie, ceux qui sont en transition de je ne sais pas quoi, ceux qui sont dépêchés d'un endroit ou un autre, il y a des profs qui sont payés pour ne pas faire prof, pour ne pas devant être une salle devant des élèves, en fait. Mais le drame aujourd'hui, c'est qu'on va... Je ne suis pas sûr qu'on ait pris la mesure de la chose, c'est qu'on va devoir faire des choix. Ça ne nous est jamais arrivé depuis des décennies. C'est-à-dire qu'on va sacrifier des pans, des domaines importants.
Oui, et là, la question, ce sera de savoir quand même...
On est obligé.
Qu'est-ce qui va devoir sauter? À mon avis, pour le coup, l'éducation nationale et la culture devraient être les premiers à sauter. Parce qu'en fait, c'est, quand on voit le désastre de l'éducation nationale, qu'on leur enlève des sous, je ne vois pas ce qu'ils feront de pire.
Non, mais liez pas les deux, effectivement. L'éducation nationale, ce n'est pas la culture.
Non, ce n'est pas la culture, mais la culture fait quand même aussi...
C'est un petit budget, la culture.
Oui, on sent celui qui dirige l'incorrect à un magazine.
Et en plus, dans la culture, vous mettez le patrimoine. N'oubliez pas que dans le ministère de la Culture, vous êtes patrimoine. Ouais. Hein.
Si vous voulez,
ils n'ont jamais séparé les deux, ces imbéciles.
Si vous voulez des églises qui s'écroulent...
C'est ça le problème. Alors, l'avantage, c'est que l'Ukraine a quand même montré... L'Ukraine, a priori, la France était un peu au-dessus.
En théorie,
A priori.
Bon, a montré que l'Ukraine... l'ogre russe qui roule dessus, l'Ukraine peut résister avec toutes les raisons qu'on connaît.
Ouais.
Mais dire que le fuel essentiel, ça reste quand même la Melker. Alors je sais pas si on a un peuple aussi unique que les Ukrainiens trois jours après une guerre. Bon,
ça c'est une vraie question.
On a dit que c'est compliqué. Mais disons que les normes, les pudeurs, les précautions en temps de guerre, ça n'existe plus. Donc de toute façon, on sait que le jour où il y a une vraie menace existentielle qui peut arriver. Il y a plein de choses qui nous emmerdent, qui disparaissent, et l'Ukraine prouve que on peut résister. Mais ça n'empêche que tout le reste, c'est-à-dire l'école, la justice, la police, l'hôpital, on ne pourra pas tout traiter. Et je ne sais pas ce qu'il faudra faire. Alors peut-être que l'avantage, c'est que la petite loi pour seringuer les vieux, les cancéreux, va faire nous économies d'hôpitaux, d'EHPAD, pourquoi pas. Ça peut être pas mal.
Vous savez sur quoi ils vont mettre le paquet ?
Charles-Henri-Alois.
Sur la transition écologique.
Ah mon Dieu,
mais oui, ça aussi. Oui. Parce que vous pouvez mettre tout ce qui les arrange là-dedans.
Oui.
Tout.
Oui, mais alors ça, pour le coup, en termes de gaspillage.
Ils ne plus d'argent.
Mais.
Ils ne pourront plus investir. La question, là, c'est pas une question.
Ça coûte rien d'emmerder les gens.
Si, ça coûte. La question. Mais très sérieusement, on n'est plus sur l'investissement. On va être sur qu'est-ce qu'on enlève. On n'est pas sur quoi on va mettre de l'argent. On est. Qu'est-ce qu'on enlève comme budget? La transition écologique, on ne pourra pas plus mettre plus que ce qu'on a déjà mis.
Si, ils vont subventionner tout ce qui est voiture électrique.
Mais avec quoi? Il n'y a pas d'argent.
S'ils en prennent ailleurs et qu'ils en mettent là, vous avez dit vous-même que c'était
pour
déshabiller Paul pour habiller Pierre.
Oui, pas,
je dis
déshabiller pour en sauver une. Pas pour...
ils vont sauver la transition écologique. Parce que ça leur permet de
faire... Ça va être dur avant, non?
Mais bien sûr que si. 90% des gens ont peur de la fin du monde tous les jours. Là, dès qu'il fait chaud, mon Dieu, il fait 34 degrés, ça y est, c'est la canicule. Et il faut faire attention... j'entends les conneries les pires. Enfin,
oui, mais ça, c'est pas...
Il faut s'adapter.
Honnêtement, c'est pas vrai.
Parlons de l'armée.
C'est une minorité de personnes qui disent ça. La plupart des gens n'ont pas peur de l'avenir.
Mais ça marche.
Non, franchement, ils n'ont pas peur de l'avenir.
Oui, mais ça marche. Ça marche. Moi, autour de moi, je ne connais personne, d'ailleurs, qui ne croit pas à l'action de l'homme sur le climat. Que le climat se réchauffe, soit, mais ça, c'est depuis la nuit des temps. Il va se refroidir peut-être dans 50 ans. On n'en sait rien.
Peut-être qu'on ne sera plus là.
On n'en sait rien, on ne sera peut-être plus là. En tout cas, moi, certainement pas. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'action de l'homme sur le climat, On nous persuade que c'est l'activité humaine. Moi, j'en suis pas du tout persuadé. Je crois même que ça n'a rien à voir. Ou à des doses infinitésimales.
Vous n'auriez pas un mot à dire sur Gérard Depardieu ou Gabriel Manzneff?
Non mais regardez,
parce que on parle de l'armée.
Non mais regardez, en fait ce que vous dites c'est intéressant. Pourquoi? Regardez, il y avait globalement dans le narratif officiel, pour reprendre l'émission précédente, il y avait ce discours-là. Ouais. Sauf que regardez, deux semaines de canicule, tout le monde a basculé pour la clim.
Bah c'est ça.
Tout le monde. Donc c'est-à-dire que le narratif il tient pas une seconde dès qu'on a les mains dedans.
Bah oui.
Donc c'est pour ça que ça marchera pas votre théorie.
Mais bien sûr que c'est, mais au contraire.
Non, très bien là.
Au revoir.
Mais c'est la suite du débat sur l'armée.
Mais on n'a pas fini quand même.
À quoi ça sert d'avoir une armée si c'est la fin du monde?
Ce que je vous dis, c'est que s'il y a une vraie menace, on va mettre le paquet sur le budget. S'il y a de plus en plus de supporters d'anglais qui viennent agresser tout le monde, on mettra plus d'argent sur la police. Et en fait, ça va dépendre des événements. C'est les événements qui vont dicter où est-ce qu'on va aller.
Mais là, je rebondis sur ce que vous dites parce que ça me semble pour le coup important, c'est-à-dire que la question de la sécurité intérieure est peut-être encore plus importante que le rayonnement de la France à l'étranger ou notre capacité à projeter une puissance. C'est-à-dire que est-ce qu'il ne faut pas privilégier précisément la sécurité intérieure et la capacité à faire face à des débordements? Là, on parle au lendemain du match de la partie de balle au pied.
De football. On a battu le Maroc.
Oui,
heureusement.
Alors, j'avoue que je n'ai pas vu. S'il y a eu des...
Vous avez un peu vu. Vous avez un peu regardé le match, j'ai des preuves.
Ah bon?
Oui.
j'ai...
Là, des photos.
Non, j'ai surtout pas vu si Paris avait été ravagé.
Non, en fait, non. Très peu. Il y a eu 150 villes, je crois, qui ont vu des voitures cramées, mais pas plus que des trucs habituels. Il y avait quand même 8000 policiers à Paris, 20000 sur tout le territoire. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les autres, qu'on pouvait continuer à vendre leur commerce de drogue, parce que ça avait été des... il y avait moins de nettoyés, forcément. Donc, ils étaient disponibles. Mais sur votre question de la sécurité intérieure, c'est intéressant. Mais le problème, c'est que la puissance, c'est aussi ce qu'on montre aux autres. Et à partir du moment où on montre qu'on est plus puissant, s'il y a des voisins... qui ont quelques envies de venir nous emmerder, on dit, en fait, on n'a plus rien.
Non, c'est surtout qu'ils peuvent venir nous causer du tort dans d'autres secteurs de la planète. Alors, je vais quand même, parce que moi j'ai travaillé mon dossier, chers amis.
Ça veut dire quoi, moi? Parce que nous, on ne fout rien.
Il y a des faiblesses structurelles dans l'armée française qui n'ont toujours pas été réglées et qui sont vraiment impressionnantes. Déjà, il y a les munitions. Donc, on a des stocks d'obus qui sont à peine reconstitués, mais qui sont encore extrêmement faibles. Donc les missiles sol-air et les missiles, donc les fameux missiles de frappe dans la profondeur, nous n'en avons pas. Ensuite, on a une armée qu'on appelle échantillonnaire. Ça, c'est un sénateur qui s'appelle Christian Cambon, qui dit, je le cite, « Nous avons l'éventail des armes nécessaires, mais on n'a pas l'épaisseur et la profondeur. » C'est-à-dire, en fait, on a en théorie une armée de vitrine.
De vitrine,
exactement.
Pour les Champs-Élysées.
Capable de tout faire. Ouais. Sur les Champs-Élysées, on peut dire « Alors ça, c'est pour faire ci, ça, c'est pour faire ça. » Mais dans la vraie réalité, on est incapable de tenir. On nous avait expliqué récemment que c'est assez horrible d'avoir à dire ça, mais que l'armée française, face à une configuration de la guerre Russie-Ukraine, tiendrait 4 jours.
Oui.
Enfin,
oui.
Mais c'est un peu de fou. Bon, on avait dit que pour l'Ukraine, ça durerait 2 jours.
Ça durerait 3 semaines, oui. Ensuite, on n'a plus donc d'armes, de missiles à longue portée, et on a une pénurie de chars, puisque le char Leclerc est en train de sombrer, de vieillir, voilà, et il ne sera remplacé qu'en 2035. Donc là, faut quand même se dire qu'on vit avec des résidus de blindés, des résidus de blindés. C'est quand même phénoménal.
Comme les Canadair, comme tout. En fait, on part de tellement haut qu'on chute depuis longtemps, mais comme on part de très haut, la chute est longue, donc on s'est habitué. Et donc on se rend compte au moment où on est au sol.
C'est
le premier là. Et sur l'armée, justement, les armements, les munitions, on a vu en croix en temps de guerre intensive, on a dit 3 jours, tout ça, très bien. On dit, on va remettre le paquet, on va en créer. Le problème, c'est qu'on n'a plus l'industrie. Et le problème de l'industrie, c'est que ça se remet pas comme ça, c'est des savoir-faire. Et quand vous avez flingué l'industrie pendant 50 ans, vous n'avez plus les gens pour les faire. Donc il faut reformer. Et donc, en fait, à partir du moment où
le nucléaire civil,
vous relancez, vous avez 20 ans pour le refaire.
C'est ce qui s'est passé avec ce qu'a vendu Macron quand il était secrétaire à l'Élysée.
À l'économie générale.
Secrétaire général de l'Élysée. Le savoir-faire français pour les turbines à réaction.
Qui a disparu. Et alors, on a aussi un autre problème. Et là, je pense que c'est politique et pas seulement technique, mais on a des dirigeants qui n'ont toujours pas compris l'importance précisément de cette fameuse guerre en Ukraine et puis la guerre entre l'Iran et les États-Unis et Israël. C'est-à-dire que les stratégies classiques ont volé en éclats face à l'agilité et au système D qui a été mis en œuvre justement par les Ukrainiens puis par les Iraniens, et notamment avec ces drones.
Les drones.
Il faut quand même se dire, au moment où la France lance un nouveau porte-avions, ça c'est quand même, ça c'est un symbole quasiment, on lance un nouveau porte-avions. Et il est utile ce porte-avions parce qu'on n'en a que deux. Donc il faut bien avoir deux porte-avions pour qu'il y en ait
un. Il y en a toujours un en panne.
Un en panne et un en manœuvre, en action. Mais néanmoins, symboliquement, c'est incroyable parce qu'on lance un énorme porte-avions et au même moment où l'armée ukrainienne a détruit la flotte navale russe, enfin la flotte russe de Crimée, qui les a obligés à reculer jusque derrière la Crimée tellement ils étaient en train de se faire couler tout leur vaisseau. Mmh. Et symboliquement, c'est incroyable de se dire que nous, on lance un truc qui peut se faire couler par un drone de 500 kilos, enfin ou de 100 kilos,
qui coûte rien.
C'est phénoménal, qui coûte quelques milliers d'euros.
Ouais, c'est ça.
C'est phénoménal. Et en revanche, en matière de drones, ben, nous sommes totalement nuls. Et on va être obligé, là je lisais récemment, on va être obligé d'aller les acheter aux Ukrainiens. C'est quand même un truc.
Ils nous doivent bien ça.
Oui, non, mais c'est vrai qu'ils nous doivent bien ça.
Nous
mais...
les donner.
Oui. Mais si vous voulez.
Ouais. Non, c'est, mais on est ringards en fait.
C'est une bascule technologique. Qui n'est pas normal.
On n'a jamais rien su anticiper. Mais rappelez-vous, le mandat Macron, 14 juillet, ça s'est ouvert sur quoi? Avec l'engueulade avec le chef d'état-major qui s'en va. Bon, voilà. Oui. Dès le départ, en fait, il y a eu un affrontement. Et dès le départ, a dit le chef, c'est moi, je m'en fous. Voilà. Alors, c'était pas pour les questions de drone, c'est pour les questions de budget. Il avait dit voici, il y a ça, ce qu'il faudrait faire.
Le général de Villiers avait dit on gratte l'os.
Donc, voilà. Le problème, c'est que Macron, dès le départ, avait dit je vous écoute pas. De toute façon, je sais, à partir du moment où c'est le règne des Técos. Le technicien dit je sais, c'est écrit dans les livres.
On va passer, on va peut-être s'arrêter sur l'armée, je pense qu'on a fait l'essentiel en disant que...
Juste une image, de toute façon Macron, dès qu'il dit quelque chose qu'on va faire, c'est qu'on ne le fait pas.
Oui.
Parce qu'il commence...
Sauf l'euthanasie.
On va le faire et en même temps on ne le fait pas.
Voilà.
Effectivement, sauf l'euthanasie. Alors, on va se diriger maintenant vers un sujet qui tient beaucoup à cœur de Charles-Henri Deloye. Ce sont plutôt les 50 décisions qui ont plombé la France, et je vous propose de garder quand même 10 minutes, un quart d'heure à la fin pour parler de l'évolution de la droite après le retour de Marine Le Pen. Donc, il y a quelques semaines, l'Institut Thomas More a publié un grand rapport sur les 50 décisions les plus funestes de la vie politique française sur les 50 dernières années. Et je vous ai demandé à chacun d'en choisir une ou deux pour essayer de voir, selon vous, quelles étaient les pires, ou en tout cas, soit de manière frappante, soit au contraire de manière plus insidieuse. Alors, je ne sais pas ce que Charles-Henri a retenu.
Moi, je veux bien commencer, mais je ne vais pas parler des pires, parce que les pires, pas tout le monde les connaît.
L'avortement, le regroupement familial.
Voilà, familial, tout ça. Bon, l'avortement n'est pas dedans, parce que je pense que c'est moral. Ils n'ont pas voulu se lancer dans des mesures qui tiennent aux mœurs, etc. Mais bon, ça fait partie, pour moi en tout cas, de mesures déplorables. Mais ils n'en parlent pas, ou alors je ne les ai pas vus, je ne sais pas si...
Non, parce que ça commence avec le collège unique, après.
Voilà, c'est ça, ça commence ils le disent, en 75, l'avortement avait déjà été voté. Bon, ils sont bien arrangés, mais effectivement, le regroupement familial, etc. Donc moi, je vais juste parler d'une ou deux mesures que je connais bien, parce qu'elles concernent les villes, et les gens ne s'en rendent pas compte, parce que c'est un peu compliqué, mais je vais faire simple. Vous avez la loi sur la suppression de la taxe d'habitation. Ça peut paraître populaire au premier abord, parce que qu'on soit propriétaire ou locataire, on paye une taxe d'habitation. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que cette taxe d'habitation était une des mannes principales de budget pour les villes. Or, si vous diminuez le budget des villes, vous aurez évidemment moins de services. Il ne faut pas s'étonner après que les écoles soient moins pourvues, que les routes soient moins entretenues, etc. Bon. Mais l'État a dit qu'à cela ne tienne, on va vous donner des subventions compensatoires. Bon, ça ne dure qu'un temps, je vous signale, ça baisse après. Mais le problème, ce n'est pas tant de donner de l'argent à la ville que de la rendre dépendante de l'État. C'est-à-dire que ça fait partie de ce qu'on appelle des recettes propres de la ville. Mm-hmm. Pour qu'une collectivité territoriale soit reconnue dans la Constitution, il faut qu'elle ait des recettes propres. Or, on lui a enlevé sa principale recette propre, qui est la taxe, une des deux, c'est-à-dire la taxe d'habitation, mais on s'est bien gardé, évidemment, on laisse la taxe foncière, parce qu'elle ne concerne que les propriétaires, évidemment. Le méchant propriétaire, l'exploiteur, etc. Seulement, quel que vous habitiez dans une ville en tant que locataire ou que propriétaire, vous utilisez tous les services que la ville vous offre. Donc il y a déjà une injustice qui n'a pas lieu d'être. Alors moi, j'avais proposé ce qu'on appelle une taxe de résident. C'est-à-dire, peu importe votre statut vis-à-vis de votre immobilier, que vous soyez occupant à titre gratuit, que vous soyez locataire, vous soyez propriétaire, comme vous profitez des services de la ville, vous payez ce qu'on appelle une taxe de résident. Et ainsi, il n'y a pas de différence. Alors, il faut savoir aussi que les villes reçoivent une dotation de fonctionnement qui a diminué de 2/3 en l'espace de 15 ans. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'elles font ? Elles se replient sur la taxe foncière. Et tous les maires, ou quasiment la trois quarts des maires, ont dû augmenter énormément la taxe foncière. Ce qui fait que vous pouvez être un petit propriétaire en ayant un simple 2 pièces dans une ville et vous vous retrouvez à une taxe foncière qui a grimpé. Alors on va me dire, est-ce que elle équivaut à l'addition entre la taxe foncière d'avant et la taxe d'habitation qui n'est plus ? Eh bien non, la taxe foncière est bien plus haute. Et en plus, parce qu'elle a des composantes qui échappent aussi à la ville, parce qu'il y a une partie pour le département, une partie pour les syndicats, etc., etc. Alors, deuxième chose, si je ne suis pas trop long,
Là, vous avez fini avec votre première loi ?
Oui, pour la loi.
On en donne une à Arthur, et ensuite vous reprenez. Chacun son tour.
Moi, j'en ai pris deux, mais la première serait 2007.
Ouais.
Pour deux raisons. Traité de Lisbonne. Première, parce que grâce à ce bon écrivain bastillé Nicolas Sarkozy, la primauté du droit européen sur le droit français est rentrée officiellement. Il y a eu depuis les années 50 des coups d'État des juges, ça n'a jamais été avalisé. Et lors de la Constitution, c'était de mémoire en 6e page. Et traité de Lisbonne, c'était relégué dans les annexes, mais néanmoins présent, donc primauté du droit européen. Mais surtout, en fait, c'est les conséquences politiques. C'est que 2007, si vous regardez, il y a explosion des abstentions ensuite, à chaque élection. En fait, 2007 a dégoûté les Français de la politique, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus cru à la politique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un regain avec les législatives de 2024. Avec suite aux européennes, il y a eu un regain à ce moment-là. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a le système qui s'est mis en branle. Et au-delà du front antifasciste qui s'est mis en place, c'est derrière, dans les attributions des postes au sein de l'Assemblée nationale, il n'y a rien qui a été respecté. Et ça, une nouvelle fois, dégoûté les Français, ce qui fait que je pense que je ne suis pas certain qu'il y ait autant de participation qu'on ne le pense aux prochaines élections. Mais vraiment 2007, parce que primauté des droits européens sur le droit français, qui, même si on peut les envoyer paître, c'est inscrit dans la loi, ils s'en réclament, et dégoût absolu du politique et de la démocratie pour les Français.
Oui, je suis tout à fait d'accord, mais il fallait en choisir. Effectivement, il y a les grandes lois comme la fin du collège unique, ou plutôt le collège unique.
Le collège unique, pardon,
qui est une erreur lamentable pour...
Collège unique.
Oui, voilà, collège unique.
Bravo.
Par l'éducation nationale. Bon, ça, c'est des grandes lois, effectivement, qui font que la France décline. Moi, j'ai parlé encore une fois de ce que je connais bien, qui est le non-cumul des mandats. Ça a été voulu par cet idiot de François Hollande, qui a cru, par démagogie, bien faire en disant « ça y est, maintenant, on pourra... » être uniquement que ou maire ou député ou sénateur, mais pas cumulé, soi-disant
ça,
parce que...
Ça, c'est une grave bêtise.
C'est une grave erreur, je vais m'expliquer. Pour le côté financier, parce que les gens... Évidemment, c'est toujours la même chose en France, on mélange tout. Ah, ces politiques, ils s'enrichissent, gna gna gna, etc. Bon, le problème, c'est qu'ils ne connaissent rien et puis ils parlent ils confondent entre l'élu de base et puis le ministre. L'élu d'une ville moyenne en France, d'abord, il est sous-payé. Hein, je connais bien le problème. Non, non, mais
je... Non, vous n'êtes pas élu, donc vous ne parlez pas pour vous.
Moi, je ne parle pas, je ne suis pas élu, hein, mais même si j'étais élu, j'aurais le droit d'en parler, a fortiori. Je sais ce que touche un maire d'une ville de 30 000 habitants, il touche entre 2008 et 3002. Pour les responsabilités qu'il a, c'est pas cher payé. Surtout que s'il veut vraiment bien administrer sa ville, généralement, ça lui prend trois quarts de temps, pour pas dire plus. Moi, je connais des maires qui, c'est 24-24, 365 jours sur 365 jours. Donc franchement, on peut pas dire que ce soit indemnisé à hauteur. Bon, et puis merde, il faut payer quand même les élus, sinon il n'y en aura plus. Bon. Alors pour ce qui est du cumul...
En deux minutes,
s'il vous plaît. Oui, il y a deux choses. Il y a le fait qu'un élu qui devient député sans avoir passé par la case maire, il ne connaît pas l'incidence des lois qu'il vote. Alors moi, j'ai eu l'exemple dans ma circonscription d'une charmante députée macroniste qui un jour m'appelle pour avoir des renseignements sur les écoles élémentaires qui, comme vous savez, sont administrées par les villes. Pourquoi ? Parce qu'elle n'avait jamais été maire ou élue municipale. Donc, elle s'apprêtait à voter une loi nationale qui allait s'appliquer à toutes les villes sur les écoles, mais sans avoir l'impact réel des incidences, oui, de cette loi. Et donc, vous voyez que pour un futur parlementaire qui prétend avoir pouvoir de voter, ou un futur ministre qui prétend avoir voté des lois qui vont s'appliquer sur l'ensemble de la France, il faut commencer par savoir ce qu'elles vont donner
dans la vraie vie.
Et je terminerai en disant, si c'est pour un problème d'indemnité, il faut savoir qu'en France, il y a une loi d'écrêtement. C'est-à-dire que si vous êtes, comme autrefois, on pouvait être, président du département, maire de sa ville et pourquoi pas député, on n'additionnait pas les trois indemnités. Elles étaient ce qu'on appelle écrêtées. Donc de toute façon, ils ne pouvaient pas s'enrichir sur le dos de la République. Et on va me dire, oui, mais tous ces collaborateurs, etc., eh bien, il était moins cher pour un politicien qui avait trois casquettes de payer deux ou trois collaborateurs qui allaient être multicartes, plutôt que trois
ici, trois là-bas.
Voilà,
oui,
trois là-bas, oui. Trois ici et trois au-delà, sous des casquettes différentes. Vous voyez ce que...
Loi, c'est une loi de pure démagogie.
Totalement.
Alors, est-ce qu'il vous reste une loi à évoquer ? Oui, et ensuite on passe à notre sujet suivant.
Allez-y. Loi Payon de 2013. Parce que loi Payon de 2013, elle a trois conséquences dramatiques qui ont accéléré le déclin d'école qu'on connaît. C'est un, ils abandonnent le socle commun, je lis, pour rebaptiser, j'aime beaucoup les noms progressistes comme ça, c'est, ils rebaptisent socle de connaissances et de compétences et de culture. Donc autant de gens, ils foutent rien. Mais sauf que, comme ils sont malins, ils ont quand même compris le truc. Qu'est-ce qu'ils font derrière ? Ils font la création du Conseil supérieur des programmes. Donc, plus de socle commun, donc on enlève les bases, vous mettez un fourre-tout de connaissances et de culture, vous créez une espèce de conseil supérieur, il y a tous les progressistes qui rentrent dedans, c'est ce qui s'est passé. Ils ont ajouté à cela la réforme des rythmes scolaires. On voit le périscolaire aujourd'hui, les conséquences. C'est une conséquence directe de ça. Et vous ajoutez à cela 2013, c'est qui va avec le socle commun qui s'enlève et le conseil supérieur des programmes, toutes les nouvelles associations avec les agréments qui rentrent dans les écoles, les associations LGBT, X+, je sais pas quoi, anti-racistes, ce que vous voulez. Et donc, vous avez eu une mainmise du progressisme idéologique officialisé par Payon en 2013.
Ouais. On en a fini avec ces lois. J'invite tout le monde à aller regarder quand même
ce qui est sur Internet. Très bien fait.
C'est très synthétique.
Ouais.
Le Figaro Magazine, on avait fait un dossier récemment.
Fait ça une dessus.
Oui, ça une, effectivement. Ouais. Et on le trouve en ligne. Donc, c'est l'Institut Thomas More.
La loi SRU sur les logements sociaux qui oblige à faire un pourcentage de logements sociaux qui ne sera jamais atteint.
Oui, parce
que plus, c'est comme en mathématiques, vous savez, l'escargot qui arrive près du mur. Chaque jour, il va faire la moitié du chemin. Il n'arrive jamais au mur. Là, c'est pareil. Il faut 25%. Mais comme vous construisez, il faut 25% encore. Chaque année, il faut réajuster. Donc, il faudrait faire du 80%. Pour avoir 25% au bout de 10 ans. Enfin, genre, c'est dément.
Non, puis c'est surtout que ça fiche en l'air l'équilibre des villes.
Et ça
casse le niveau scolaire.
Et ça coûte un fric dingue parce que beaucoup de villes payent des amendes.
La loi SRU, elle devrait être au top. des pires lois.
Des poules de sel,
des trucs à fond.
Enfin, voilà, bref.
Alors, il nous reste un sujet. On parlera de la droite face au RN la semaine suivante, je pense. Là,
j'aurais voulu défendre Xavier Bertrand.
Mais vous pourrez.
Ah, bon, parce que moi, je suis un fanatique de Xavier Bertrand.
On va aborder le dernier point qui est vraiment dans l'actualité, qui est un vrai scandale immonde, immoral, dégueulasse. Je pèse mes mots. C'est ce courriel donc envoyé par le ministre des Relations avec le Parlement, qui s'appelle Laurent Panifous, dont j'avoue avoir découvert l'existence à ce moment-là.
Panifous.
Pas moi. Ça doit être du Sud.
On dirait un gâteau du Sud-Ouest.
Oui, ça doit être Sud-Ouest, oui. En tout cas, il avait annoncé organiser une réception mercredi 15 juillet à 20h, à l'occasion du vote définitif donc de la proposition de loi sur l'aide à mourir, autrement dit sur l'euthanasie. Et comme je le disais tout à l'heure en introduction, dans un autre message, le CESE, donc le Conseil économique, social et environnemental, qui est un peu à la République ce que l'EHPAD est au particulier, proposait donc aux anciens membres de cette convention citoyenne sur la fin de vie, c'est-à-dire ceux qui ont voté cette loi, enfin qui ont incité à la voter, de les héberger et de les transporter gratuitement pour venir boire une coupe de champagne.
Et piquer.
Et non, pas encore. Mais voilà, donc Bruno Retailleau s'est indigné au Sénat. Arthur de Vatrigan, c'est vous qui m'avez raconté cette histoire scandaleuse.
C'est sorti. En fait, c'est bien, c'est que l'affaire a pris une importance très vite, très rapidement. C'est sorti avec 2-3 tweets et tout de suite David Isnard, Bruno Retailleau, tout le monde s'en est emparé. Parce qu'en effet, c'est scandaleux, parce que vous avez ce ministre dont personne ne connaissait l'existence, sinon quand même que ce monsieur, dans la vie civile, est directeur d'EHPAD, et c'est un des premiers militants de l'euthanasie.
Et
depuis 2 ans, il milite pour l'euthanasie à fond, il est directeur d'EHPAD.
C'est immonde.
Comme beaucoup de gens qui militent pour l'euthanasie. Vous avez ça. Donc
quand
CESE...
tu rentres dans son EHPAD,
t'en ressors un jour les pieds devant.
Et il est écrit dans le mail célébré cocktail. Hein, et puis on paye tout le CESE. Avant c'était 40 millions d'euros par an, maintenant ils ont baissé à 36 parce que ça a un peu râlé. Mais le principe étant quand même de refiler du boulot à tous les chômeurs de la rue Cadet. Hein, c'est ça le CESE.
Oui, c'est ça.
Le CESE qui avait donc abrité la fameuse convention
les
citoyenne.
Les maîtresses de Mitterrand.
La convention citoyenne qui a donc. Pour ceux qui. Nous, je me rappelle, on s'était avec Lincoln, on avait scruté dans le moindre détail, fait une étude pratique de cette convention. Il faut savoir que toutes les questions qu'on vous proposait aboutissaient forcément à oui. Et que même dans les questions de sondage, on arrivait à des scores de 120%.
Oh, c'est magnifique, 120%.
Vous dire que le truc était bien foutu, quoi. Oui. Et plus crédible en plus. Donc là, le principe, c'est de dire on va fêter ça. Donc, premier problème, c'est que c'est le 15 juillet, la loi n'est pas votée. L'archer fait une saisine au Conseil Constite. Donc, ça veut dire que en fait, le ministre qui est dédié au Parlement explique que les parlementaires vous servent à rien parce qu'on va faire la teuf, sponsorisée par les impôts malgré votre vote. Ou on s'en fout de votre vote. Ensuite, lire sur l'argumentaire, les types nous expliquent à juste titre, ceux qui demandent la mort, c'est parce qu'ils souffrent trop. C'est vrai.
Ouais.
Et donc, comment ils font ça? À coup de champagne et petit four. C'est quand même immonde. C'est immonde. Alors, forcément, comme ça a gueulé, il y a eu direct rétropédalage. Le ministre a commencé à dire non, mais c'est pas vrai, c'est pas un cocktail, c'est juste une rencontre. Sauf que le problème, c'est que dans le premier mail, il y avait écrit si vous avez un régime spécifique alimentaire, merci de nous préciser. Super, en plus, si faites ça au gluten, les mecs, c'est vachement fun.
Cocktail non létal.
Donc, absurde. Ensuite, le CESE réagit en expliquant « Oui, mais en fait, ce sont des mots inappropriés. » Et vous avez 3 attachés de presse qui sont dédiés à la com' de crise.
Ouais, elles sont pas...
C'est quand même assez drôle. Et finalement, ça, c'est 2 heures après, parce que plus ils ouvrent la bouche pour se défendre, et plus ils s'enfoncent les pauvres. C'était les sables mouvants de Saint-Michel, quoi. Et donc, le ministre a finalement dit « Alors, finalement, on va reporter. » Bah, je m'étais dit, ils vont venir. Finalement, ils vont annuler. On reporte. Non, mais si vous dire à quel point, en fait, depuis le départ, ce sujet-là, on le sait, mais là, c'est la preuve. Vous voulez fêter le truc. Vous prenez une tempête de merde dans la gueule pour parler français. Et vous ne l'annulez pas, vous le reportez. Ça signifie bien qu'ils ne sont pas là pour répondre à un problème.
Non.
Ils sont là comme des militants fanatiques qui veulent imposer leur lubie. C'est vraiment ça. Et donc, c'est détestable, c'est à vomir, c'est indécent. Mais malheureusement, on n'est pas surpris.
Charles-Henri Léloy, que vous inspire ce raout immonde en toute neutralité et journalistique, évidemment. Oui, 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 on pourrait apprendre cette vieille phrase.
Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même une tradition française depuis quelques temps qui est de danser sur les morts. Oui. C'est fascinant. Quoi. Non, mais cette pulsion de mort festive est assez angoissante.
Moi, je suis la génération Jean-Paul II, et souvenez-vous, il parlait de la culture de
la
mort.
La culture de mort,
mais vraiment en plein dedans.
Ah ouais, mais là, ça explose, quoi. C'est fascinant.
Et est-ce qu'on sait s'il va y avoir... Non, il n'y aura pas d'enquête, pas de condamnation. Pas de... Parce qu'en plus, la loi n'est même pas votée.
Condamnation,
Là, ils ont fait quand même triple salto arrière. Hein.
C'est indécent, mais il n'y a pas de matière pénale. Oui.
Non, mais il y a quand même... On ne sait jamais ce qui peut se passer. Comptablement, la loi va passer. Comptablement. Mais disons que plus on avance dans le débat, plus les positions se durcissent et plus l'équilibre se trouve, qu'on a... Le Sénat qui s'est couché sans combattre, mais néanmoins l'archer, même si on peut voir une manœuvre, saisit le Conseil constitutionnel, qu'on a cette affaire médiatique qui choque tout le monde, qu'on a une info qui sort du Figaro ce matin qui explique que le Corneux voulait pas, mais que c'est Macron, par le fait du prince, qui explique on y va à fond.
Pour la loi.
Alors, en fait, on va laisser le processus législatif se dérouler, ça va se reporter. Macron sait très bien que ça se reporte, on oublie, parce que derrière, on a une présidentielle. Et c'est Macron qui a imposé le calendrier. Vous avez des types qui font quelque chose qui choque tout le monde, même les pros. Vous avez Macron qui est le personnage le plus détesté de la France aujourd'hui, qui dit c'est moi qui décide. C'est quand même pas très bon. Je veux dire, s'il y a quelques paramètres qui peuvent jouer pour que, je sais par quel miracle, cette loi ne soit pas votée mercredi, bah les paramètres sont là.
Oui, j'ai l'impression par contre que Macron veut quitter le pouvoir en ayant fait une espèce de loi, un peu comme Jospin avait fait le Pax.
Bien sûr, c'est ce qui lui reste. Hein.
Oui, en fait, ils
Hollande,
veulent une loi symbolique.
Pour tous.
Simone Veil a fait l'avortement.
Bien sûr, comme ils ne peuvent pas agir sur le réel, ils agissent sur les symboles.
Qu'est-ce qui va rester de Macron ? IVG dans la Constitution et euthanasie.
Et euthanasie. Voilà. Quelle horreur. Quand on y réfléchit, quand on associe les deux, on a culture de la culture
tout
de mort.
Tout ça pour faire plaisir à Aline Renaud.
Parce que c'est son projet.
C'est un croque-mort, le type. Le type
c'est horrible. On plaisante, mais c'est...
Mais
c'est,
n'empêche,
en
voit
fait, ce
quand
type
même que...
est vraiment... Oui, c'est la culture de mort.
Mais sur le sujet, il y a une vraie évolution. Parce que, je veux dire, ce qui n'était pas le cas sur l'IVG.
Oui.
L'IVG, c'est, je veux dire, c'est l'évolution inverse. C'est l'évolution inverse. Il y a une majorité de contre et c'est passé. Là, l'euthanasie, c'est une majorité de pour. Et plus on discute, plus le débat avance, plus on en parle.
Pourquoi vous dites l'IVG,
l'IVG
c'est une majorité de pour. Les gens étaient pour, ça ne serait pas passé.
Les gens étaient contre l'IVG.
Ça a beaucoup. Dans les années 70, ça a beaucoup évolué.
C'était pas majoritaire l'IVG.
Je crois que c'est quand même passé au Parlement.
Plus ça avançait et plus on en parlait et plus.
C'est alors ça s'est
acceptable.
Banalisé, oui, voilà. C'est bien, mais
l'euthanasie, c'est l'inverse.
Il y avait la culture baba cool, hein.
Au Parlement, c'était.
Alors, c'était plus serré.
C'était plus serré. L'euthanasie, c'est l'inverse qui se passe. C'est l'inverse. Et c'est pour ça qu'ils flippent. Et c'est pour ça qu'ils veulent accélérer.
Oui, parce que plus le débat va durer.
Il y a 60 voix d'écart.
Et s'il durait, effectivement. Et puis lui, il n'a plus rien à faire, puisqu'il se représentera pas.
Oui, et puis c'est surtout que ce sont des lois, malheureusement.
Pas tout de suite.
Ce sont des lois sur lesquelles on ne reviendra
mais ça,
pas.
Mais aucun gouvernement ne voudra faire. Ça m'énerve, parce que c'est ce qu'on entend.
Un califat.
Mais non, pas du tout. Je ne sais pas. Alors, sur l'IVG, c'est caché.
Ouais.
L'IVG, c'est caché. C'est in utero. Ouais. L'euthanasie, c'est pas caché. Ouais. Donc, l'espèce de principe de dire les lois sociétales, les gauchistes ont vaincu tous les esprits, et on reviendra jamais là-dessus. Mais sur l'euthanasie, j'y crois pas une
seconde. Alors ça peut être sur le long terme.
Il va y avoir tellement de dommages, tellement
alors
de
ça, c'est vrai. Oui.
Affreux. Si on nous sort ce qui se passe en Belgique, c'est où quand le produit ne marche pas, on finit à tuer quelqu'un à l'oreiller. Parce que parlé de tout.
Si, bien sûr.
Parce que, non mais là, ce qui est hyper intéressant, moi je serais parlementaire, je dirais très bien, on va discuter de la loi. C'est quel poison? C'est quoi en fait les conséquences si ça marche pas? Non mais il y a des trucs très concrets. Qui paye le poison? Qui finance? Il y a un marché public.
La famille.
Il y a un marché public.
C'est une régression civilisationnelle énorme.
Alors, eh bien, écoutez, sur cette régression civilisationnelle énorme, espérons effectivement que de futurs gouvernements auront le courage, comme avec le changement de sexe, comme ça commence à se voir également tous les abus qui ont été mis en œuvre par des politiciens irresponsables.
Marche arrière.
Eh bien, peut-être qu'on pourra faire une marche arrière, effectivement, qui sera bénéfique. Sur ces fortes paroles, merci à ceux qui restent, ils ne sont plus que deux. Charles-Henri Deslois, Arthur de Vatrigan, les autres nous ont abandonnés, mais on les remercie quand même. Merci à Benoît d'avoir été là depuis 3 heures, parce que je le dis aux auditeurs, nous venons de préenregistrer 3 heures d'émission. Donc merci à tous, et on se retrouve lundi prochain donc pour une émission en direct. Et pour ne rien vous cacher des coulisses, là, nous partons enregistrer en direct une émission avec Arthur de Vatrigan. On se retrouve symboliquement, donc, un quart d'heure. À bientôt.
Ça suffit maintenant.